OK, on commence notre 42e leçon de notre série « Le péché, le commandement, la grâce ». Ce matin, nous allons voir le premier point du calvinisme, la dépravation totale et l'impuissance de l'homme. Alors, l'étude de la théologie calviniste est souvent abordée à partir de l'acronyme TULIP, ou TULIP, à cause de sa commodité mémotechnique. Revoyons rapidement ce que signifie chacune des lettres. Nous donnerons d'abord la signification des lettres en anglais, suivie de la traduction française. Alors, T pour Total Depravity, N, Inability. Bien important de mettre le N, Inability, parce que ça va ensemble. Alors, c'est la dépravation ou la corruption totale et l'impuissance de l'homme. Le U pour le Unconditional Election, en français, élection inconditionnelle. Le L pour Limited Atonement ou rédemption particulière. Le I pour Irresistible Grace, grâce irrésistible. Et le P pour Preservation and Perseverance of the Saints, traduction française, préservation et persévérance des saints. Ça aussi, c'est important, les deux, Preservation and Perseverance, parce que c'est deux aspects de la même chose. Autrement dit, on est conservé dans la grâce par la grâce de Dieu et on a aussi notre part à faire dans la persévérance, dans le sens de, comme le Seigneur dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, on va étudier aujourd'hui la lettre T. Alors, c'est vraiment, on commence par les cinq points. Donc, on étudie le premier point. Le premier point, c'est vraiment total depravity, donc dépravation. Il y en a qui appellent ça corruption, mais c'est la même chose, totale de l'homme. Alors, notre position, bien entendu, sur la nature du péché et de ses conséquences sur l'homme va vraiment affecter grandement notre position sur la doctrine du salut. Alors, si tu fais une erreur sur le premier point de TULIP, ça va se répercuter dans tous les autres points. En général, tous les chrétiens s'entendent sur la notion de corruption de l'homme par le péché. Mais là où ils ne sont pas d'accord, c'est sur la notion de l'étendue de cette corruption. Alors, par exemple, le pélagianisme pourrait exprimer sommairement sa pensée erronée en affirmant « L'homme a été influencé par le péché, mais il peut choisir le bien. » Quant à l'arminianisme, il pourrait lui aussi affirmer sa fausse conception en disant « L'homme est malade spirituellement, mais il peut choisir Dieu. » Le calvinisme tient compte de façon éclairée de tout l'enseignement biblique en déclarant, premièrement, que l'homme est mort spirituellement, deuxièmement, qu'il est complètement souillé dans tout son être et dans toutes ses facultés, troisièmement, qu'il est totalement dominé par le péché, quatrièmement, qu'il est complètement incapable d'aucun bien de nature spirituelle, ne pouvant ni ne voulant, et cinquièmement, qu'il est absolument incapable par ses propres forces de se convertir ou de se préparer au salut. Alors, on va vraiment étudier un petit peu plus en détail le premier point, la dépravation totale de l'homme. Alors, les Saintes Écritures enseignent clairement que le péché a totalement souillé l'homme dans toutes ses parties et facultés, tant le corps que l'âme. Alors, cette doctrine est souvent mal comprise ou mal interprétée. Voyons avec un peu plus de détails. Ce qu'on va faire, le premier point, c'est qu'on va regarder ce que ça signifie pas, la totale depravité ou la corruption totale. Il faut le faire parce que souvent, les gens, à cause du mot lui-même, peuvent aller trop loin dans le sens réel, biblique, qu'on peut donner au mot. Alors, ce que la dépravation totale ne signifie pas, elle ne signifie pas que l'homme est dépourvu de conscience. Même les païens ont une conscience. Romains 2, versets 14 et 15, « Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. » Deuxième chose que la dépravation totale ne signifie pas, La dépravation totale ne signifie pas que l'homme est dépourvu de toute qualité louable. Aux yeux des hommes, je dirais le mot ici, le mot clé pour vraiment comprendre l'idée, c'est aux yeux des hommes. Marc 10, verset 21. Jésus l'ayant regardé, ici dans le contexte, c'est vraiment le jeune homme riche, là. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Alors le Seigneur, il l'aime, il reconnaît certaines choses, mais il lui dit, « Il te manque une chose. » Alors, on voit que l'homme peut faire des choses qui, aux yeux des autres hommes, sont louables, et la corruption totale ne signifie pas que ces choses-là n'existent pas. Alors, dans ce passage, nous voyons que Jésus lui-même a reconnu des qualités chez le jeune homme riche. Troisième chose que la dépravation totale ne signifie pas, alors, la dépravation totale ne signifie pas que l'homme est enclin à commettre toutes les formes de péché au dernier degré. Autrement dit, quand on dit « total depravity », ça ne veut pas dire que tous les péchés possibles qu'on peut faire une liste qui va aller au plus profond de chacun d'eux. C'est ça que ça ne veut pas dire ça. Si on dit que ça veut dire ça, on va plus loin que les Écritures. Par exemple, le péché d'avarice peut exclure la luxure ou l'orgueil. L'orgueil, par exemple, peut exclure la sensualité. Alors, quelqu'un, son principal péché, ça peut être plus l'orgueil, mais il n'est pas très porté sur la sensualité, et c'est la même chose pour chacun des péchés. Alors, cependant, tous les péchés peuvent potentiellement se développer chez le pécheur. Ça veut dire on n'est pas tous portés, on n'a pas tous tombé dans les mêmes panneaux. Cependant, potentiellement, ça veut dire qu'on pourrait aller dans tous ces péchés-là. Quatrième chose que la dépravation totale ne signifie pas, la dépravation totale ne signifie pas que l'homme soit incapable d'accomplir des actes qui soient extérieurement conformes à la loi de Dieu. Bien important de dire extérieurement. Alors l'homme peut regarder la loi de Dieu et il peut dire, par exemple, je ne sais pas moi, avec un certain commandement, dire « moi je me conforme à cela ». L'idée, c'est vraiment extérieurement, son cœur n'est pas là. Il ne le fait pas par amour pour Dieu, il ne le fait pas pour la gloire de Dieu, il le fait, c'est comme une certaine capacité de faire des choses moralement, qui sait que les Écritures déterminent comme bien ou mal, mais il les fait extérieurement, ce qui enlève toute la valeur à son acte. Alors, Romains 2, verset 14, « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. » Alors, c'est vraiment ce que le verset dit. Cinquièmement, ce que la dépravation totale ne signifie pas, la dépravation totale ne signifie pas que l'homme soit aussi corrompu qu'il pourrait l'être. Alors, on voit que les Écritures nous enseignent qu'il peut y avoir une évolution dans le mal. 2 Timothée, chapitre 3, verset 13, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Alors, les hommes peuvent avancer et avancent dans le mal. Maintenant qu'on a vu ce que ça ne signifie pas, on peut regarder ce que la dépravation totale signifie. Alors, la confession de foi baptiste de Londres de 1689 offre un excellent exposé sur la signification de la dépravation totale de l'homme. Nous reproduisons ci-dessous le chapitre 6, intitulé « La chute de l'homme, le péché et son châtiment ». Alors vraiment, je trouve que quand on lit la confession de foi au chapitre 6, on voit que c'est vraiment exprimé clairement, complètement. Les pasteurs qui se sont réunis pour faire ça, ils ont fait un excellent travail. Alors, le premier paragraphe, « Bien que Dieu ait créé l'homme droit et parfait, et lui ait donné une loi juste, qui était en vue de la vie, s'il l'avait observée, et qu'il l'ait menacée de mort, s'il la transgressait, l'homme n'a pas gardé longtemps cet honneur. Utilisant subtilement le serpent, Satan séduisit Ève, et par elle, il séduisit Adam, qui, sans contrainte sur lui, transgressa volontairement la loi de leur création et le commandement qui leur avait été donné en mangeant du fruit défendu. Il a plu à Dieu de permettre cette chute dans son conseil sage et saint, puisqu'il avait déterminé de l'utiliser pour manifester sa gloire. Alors, ce qui est intéressant avec la confession de foi, c'est qu'on a les petits numéros avec les différentes idées, et vous avez les versets en dessous pour... alors, c'est vraiment bon, quelqu'un qui veut prendre le temps d'étudier la dépravation totale de l'homme, prend le chapitre 6 et va regarder chacun des versets, prendre le temps de les lire, de les étudier, de les méditer. Deuxième paragraphe dit, « Par ce péché, nos premiers parents ont perdu leur justice originelle et leur communion avec Dieu, et nous en eux. De ce fait, la mort est venue sur tous. Tous sont devenus morts dans le péché et entièrement souillés dans toutes les facultés et les parties de leur âme et de leur corps. » Troisième paragraphe, « Puisqu'ils étaient la souche du genre humain, et par le vouloir de Dieu, ils représentaient toute l'humanité, la culpabilité du péché a donc été imputée et la nature corrompue a été transmise par eux à toute leur postérité par le processus normal de la génération. Leurs descendants sont maintenant conçus dans le péché et sont par nature des enfants de colère, des serviteurs du péché, assujettis à la mort et à toutes sortes de misères spirituelles, temporelles et éternelles, à moins que le Seigneur ne les libère. » Quatrième paragraphe, « De cette corruption originelle par laquelle nous sommes complètement infectés, incapables et ennemis de tout bien, et entièrement portés à toutes sortes de mal, proviennent toutes les transgressions actuelles. » Cinquième paragraphe, « La corruption de la nature demeure pendant cette vie sur terre en ceux qui sont régénérés. Bien que le croyant en ait reçu le pardon en Christ et qu'elle soit mortifiée, cette corruption, ainsi que les actions qui en procèdent, est vraiment, et au sens propre, péché. » Alors, le péché a infiltré toutes les parties et toutes les facultés du corps et de l'âme de l'homme, un peu comme la goutte de poison versée dans un verre d'eau pénètre toutes les molécules de l'eau. Alors, le deuxième point qu'on va regarder, c'est que la dépravation totale, c'est conséquences. Alors, les conséquences de la dépravation totale, la première, c'est que l'homme est mort spirituellement. Il est, premièrement, séparé de Dieu, comme on peut le lire dans le deuxième chapitre d'Éphésiens, les versets 1 à 3. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Donc, il est mort spirituellement, il est séparé de Dieu. Deuxième chose que les Écritures nous apprennent, il est esclave du péché. Jean 8, 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Troisièmement, il est soumis à la volonté de Satan. 1 Jean chapitre 5, verset 9, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Quatrièmement, il est impuissant à obtenir le salut par lui-même. Romains chapitre 8, versets 7 et 8, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Deuxième point qu'on va regarder, donc on a vu... que l'homme est spirituellement mort. Maintenant, on va regarder que l'homme est entièrement souillé dans toutes les parties et facultés, alors tant de son corps que de son âme. Alors, premièrement, l'homme est corrompu dans sa volonté. Romains chapitre 7, verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Alors, il est corrompu dans sa volonté, il est corrompu dans son esprit. Genèse chapitre 6, verset 5. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Donc, on a la volonté, on a l'esprit, on a l'homme est corrompu dans son cœur. Jérémie, chapitre 17, verset 9. « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? » Alors, bien entendu, je donne un verset par point, mais on pourrait donner beaucoup plus qu'un verset. C'est juste comme pour illustrer les points. Alors, autre chose qui est corrompu dans ses affections. Jean, chapitre 3, versets 19 et 20. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Autre chose dans sa corruption, il est corrompu dans sa conscience. Titre, chapitre 1, versets 15 et 16. « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Autre forme de corruption dans son discours ou dans ses paroles, Romains chapitre 3, verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Bien entendu, le corps est compris aussi dans cette corruption-là. Romains chapitre 6, verset 12. Et 13a, la première partie, « Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. » Donc, il est corrompu, selon les Écritures, des pieds à la tête. On a Isaïe, chapitre 1, versets 5 et 6. « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade. Et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Alors, autre chose qu'il faut considérer, que l'homme est corrompu dès sa naissance. Psaume 51, verset 5. « Voici, « je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 58, verset 3. « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » Autre chose, il est aveugle et sourd à la vérité spirituelle. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. « Mais l'homme animal... » Ici, bien entendu, il faut comprendre, l'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas reçu la grâce de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le troisième point qu'on va regarder, la dépravation totale de l'homme et son impuissance. Alors, l'impuissance, ce qui est bon à remarquer, c'est que dans l'ensemble des gens qui vont dire croire la corruption totale de l'homme, et quand vous les suivez dans leur raisonnement, ils n'enseignent pas tout ce que la Bible... Oui, ils vont dire qu'il est corrompu dans son corps, dans son âme, dans ses affections, dans sa volonté et tout ça, mais ils disent que l'homme peut choisir Dieu. Alors, c'est là qu'ils ne comprennent pas la doctrine jusque dans ses conséquences. Alors, si on ne comprend pas ça, à ce moment-là, c'est une grave erreur dans la théologie. Alors, l'homme est incapable de se repentir par lui-même. Alors, c'est ici vraiment qu'on a une distinction très importante entre les Arméniens, qui, eux, croient qu'ils peuvent se repentir par eux-mêmes, et les Calvinistes, qui disent que si ça ne t'est pas donné par Dieu lui-même, tu ne peux pas le faire. Alors, acte 11, verset 18. « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Alors, on voit qui donne la repentance? Dieu. Alors, Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors ici, on a vraiment l'idée que la grâce de Dieu, c'est vraiment un don divin. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Deuxième chose, que la dépravation totale de l'homme est son impuissance. L'homme est incapable de croire à l'Évangile et de venir à Christ pour être sauvé. Alors ici, encore, c'est le même point, un peu que le précédent. Les Arméniens, eux, croient qu'ils sont capables. Jean 5, verset 39 à 40. Le Seigneur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Oui, c'est pas mal clair. Nul ne peut venir au Seigneur à moins que le Père ne lui ait donné par grâce. Alors, Jean 6, verset 65, et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Alors, autre chose qu'on a besoin de savoir, l'homme est déjà jugé et condamné à l'enfer éternel, à moins qu'il ne reçoive la grâce de Dieu. Alors l'homme est déjà jugé, Romains 3, verset 23, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors l'homme est déjà jugé, et l'homme qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas reçu la grâce de Dieu, est condamné à l'enfer éternel s'il décède dans cet état-là. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Verset important à connaître parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui croient que tu vas pouvoir revenir, qu'il y a plusieurs vies. Je ne me souviens plus comment ils appellent ça. La réincarnation, c'est ça. Alors, c'est un bon verset à utiliser pour ceux qui nous disent que la réincarnation existe. Alors, Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Matthieu, chapitre 25, versets 41 et versets 46. « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Luc 12, verset 5, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Alors, l'homme non né de nouveau est dans une condition spirituelle désespérée, de laquelle il ne peut s'échapper que par la seule grâce souveraine de Dieu. Alors, j'ai mis trois applications. La première, prenons conscience de cette doctrine essentielle des Saintes Écritures qu'est la dépravation totale de l'homme et son impuissance à se sauver lui-même. Nous devons savoir distinguer ce qu'elle est de ce qu'elle n'est pas. Deuxièmement, sachons que la doctrine de la dépravation totale de l'homme comporte deux aspects, la corruption et l'impuissance. Prions le Seigneur de nous en donner une vision et une compréhension plus profonde, tant dans nos propres personnes que chez les inconvertis. Que cette compréhension se reflète dans notre évangélisation. Troisièmement, que le Seigneur nous donne l'amour des âmes afin d'annoncer l'Évangile à notre famille, à notre entourage, aux citoyens de notre ville et de notre région et jusqu'aux extrémités de la terre, par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Amen.